Bonsoir. Je veux offrir quelques réflexions sur le sens d'un pèlerinage à la Vierge de Lourdes et l'apostolat pour le respect de la vie humaine. Nous avons laissé les activités habituelles de notre vie quotidienne ordinaire pour venir d'un pèlerinage en un lieu extraordinaire. Un lieu sanctifié par les apparitions à Bernadette Soubirou de la Mère de Dieu, sous son titre d'Immaculée Conception. Ici, Notre-Dame de Lourdes, avec tout son amour maternel, nous révèle la nature extraordinaire de notre vie ordinaire. En nous annonçant le mystère de son Immaculée Conception, elle manifeste le grand don de la venue du Christ dans nos vies, pour laquelle elle était prête à être l'instrument privilégié de l'instant de sa conception, de la première instant de sa vie. Marie Immaculée a toujours été faite totalement pour notre Seigneur. Son cœur a été maintenu libre de toute tâche de péché, de sorte que dans chaque parcelle de son être, elle était dédiée à notre Seigneur, à son incarnation rédemptrice. La Vierge Marie a conçu le Fils de Dieu dans son sein immaculé à l'ombre de l'Esprit Saint. Restant toujours vierge, totalement consacrée à Dieu par un amour pur et désintéressé, elle a donné naissance à son Sauveur. Depuis le moment de la conception et de la naissance de son Fils, jusqu'au moment de sa mort sur le calvaire, la Vierge Marie a pleinement coopéré de tout son être à son œuvre de salut. Son cœur immaculé a toujours été parfaitement uni au Sacré-Cœur. Dès lors que le Fils de Dieu prend son corps humain du cœur immaculé de Marie, le cœur de cette dernière a été fait sien. Son corps battait en parfaite communion avec les battements de son corps, devint par amour pour tous les hommes sans limite ou exception. Lorsque, à la mort de Jésus, son sacré corps a été transpercé par la lance du centurion romain, le corps immaculé de Marie a également été mystiquement transpercé. Dieu, le Fils incarné, assis dans la gloire à la droite du Père, envoie dans nos cœurs, de son glorieux cœur transpercé, le don immense et incessant de son amour. Sa mère, qui nous est donnée comme mère, comme il a dit alors qu'il mourait sur la croix, apporte à nos cœurs son cœur immaculé, uni à son sacré cœur, pour qu'il soit guéri de nos péchés et fortifié afin d'aimer comme il aime, purement et de manière désintéressée. Le message de Notre-Dame de Lourdes, aboutissant à la proclamation du mystère de l'Immaculée Conception, est un message de pénitence, d'invitation à la prière et à l'adoration eucharistique, par lequel notre Seigneur rend nos corps semblable à son cœur, à son sacré cœur. Dans le contexte de notre pèlerinage, à travers lequel Notre-Dame nous révèle de nouveau le caractère extraordinaire de notre vie dans le Christ, je vous propose quelques réflexions sur la façon dont l'union de nos corps dans le corps immaculé de Marie avec le sacré cœur de Jésus nous engage à l'apostolat du respect de la vie humaine. Notre-Dame, par le biais de notre pèlerinage, nous donne du courage pour notre vie quotidienne dans le Christ. De façon particulière, elle nous encourage à prendre de nouveau tous les moyens en vue de la sauvegarde de la dignité inviolable de chaque vie humaine, créée à l'image et ressemblance de Dieu, et racheté par le très précieux sang qui coule du glorieux cœur transpercé de Jésus. La première cause d'encouragement à l'apostolat du respect de la vie est la réalité de la loi morale naturelle, la loi que Dieu a inscrite dans le cœur de tout homme. C'est la loi que Dieu le Père a promulguée pour nous dans les 10 commandements. La loi qui correspond à l'ordre que Dieu a mis dans sa création, l'ordre qui est une participation à la vérité, à la bonté et à la beauté de son être propre. C'est une loi que tout homme, parce qu'il est créé à l'image et ressemblance de Dieu, doué d'intelligence et de volonté libre, connaît au plus profond de son être. C'est une loi que l'homme, seule créature terrestre créée à l'image et ressemblance de Dieu, est capable de contempler, de respecter et d'observer. C'est la loi qui établit l'homme gardien et intendant de la création, qui établit la participation de l'homme aux soins de la providence divine pour le monde et surtout à ses fils et filles destinés à la communion avec lui pour toujours dans le royaume des cieux. Cela se manifeste par une capacité native de l'homme à distinguer la vérité du mensonge, le bien du mal et la beauté de la laideur. Dieu le Père a promulgué la loi morale pour son peuple élu dans le Décalogue, les dix commandements. Et notre Seigneur Jésus-Christ en a donné la plénitude de l'expression dans le sermon sur la montagne dans les Béatitudes. Mais tout homme, à travers sa conscience, les connaît et est tenu de les respecter. Après les 3 premiers commandements qui ont trait à notre relation avec Dieu lui-même, notre adoration de Dieu seul, et le 4e commandement qui régit la famille comme origine et refuge sûr de la vie humaine, le 5e commandement, tu ne tueras point, donne une expression à la loi inscrite dans l'âme humaine qui fait que toute attaque sur la vie humaine innocente est à réprouver et le service pur et désintéressé de toute vie humaine désirable. L'apostolat du respect de la vie humaine n'est pas par conséquent basé sur une idée ou une réalisation humaine qui peut réussir ou ne pas réussir pour une période plus ou moins longue. Il est fondé sur la réalité même de notre nature humaine et surtout la plus haute faculté de notre nature humaine, la conscience, la faculté par laquelle Dieu ne manque jamais de nous communiquer ce qui est vrai, bon et beau. Nous n'avons jamais raison, par conséquent, d'abandonner tout espoir dans l'apostolat de respect de la vie humaine, car c'est Dieu lui-même qui nous a créés ainsi et nous a appelés à être ses collaborateurs dans le monde. Dans l'exercice de l'apostolat, nous répondons au plan de Dieu pour sa création et non à quelque projet humain pour notre monde. Ici, nous comprenons le sens profond de l'appel de Notre-Dame à la pénitence dans nos vies. Pénitence, 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 a déclaré Notre-Dame lors de sa 8e apparition, en nous enseignant ainsi à prier pour la conversion des pécheurs. Nous devons être convaincus qu'en fin de compte, chaque homme, chaque fois qu'il a purifié son esprit et son cœur de la confusion et de l'erreur que trouble la conscience, une fois que sa conscience a été informée de la vérité, va vouloir faire le bien et éviter le mal, d'abord et avant tout par la sauvegarde et la promotion de la vie humaine. Le don de la purification et de guérison de haut de Notre-Dame est le signe des fruits merveilleux qui donnent la vie de pénitence et de prière dans votre vie quotidienne. En nous engageant dans l'apostolat du respect de la vie humaine, donc nous devrions être sûrs que cet apostolat n'est pas une activité purement confessionnelle à laquelle les catholiques sont tenus de prendre part parce qu'ils sont catholiques, mais plutôt une activité qui répond à notre être profond de frères et sœurs dans la famille humaine. L'apostolat n'est pas effectué pour le bien spécifique de l'Église et de ses membres, mais pour le bien commun, pour le bien de tout homme, afin qu'il puisse atteindre la perfection pour laquelle Dieu l'a créé. Certes, parce que l'apostolat répond à notre être depuis sa formation, qui n'est rien de moins qu'une participation à l'être de Dieu, notre foi catholique nous donne la meilleure compréhension possible de la vérité et nous donne la force de Dieu, la force de sa grâce qui nous est donnée dans l'Église, de respecter la vérité dans l'action. Mais cet apostolat pour la vie est une activité dans laquelle chaque homme de conscience droite voudra se joindre à nous d'une certaine façon et dans la mesure de ses possibilités. Pour nous, en tant que catholiques, la sainteté de la vie qui se manifeste d'abord dans le respect de toute vie humaine est le fruit de notre vie dans le Christ et dans l'Église. Elle est le fruit du secours que trouvent nos doutes fréquents, notre corps craintif et pauvre dans le glorieux cœur transpercé de Jésus, en particulier par la prière et les sacrements. Dans le sacré cœur de Jésus, nous trouvons la purification de nos péchés et la force de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime, purement, et de manière désintéressée. Cherchons la sainteté de la vie, cherchons à vivre plus totalement et fidèlement dans le Christ, à donner notre corps au Christ, sans cesse et sans réserve, à porter une attention constante à nos consciences, de sorte qu'elles soient sans cesse plus lumineuses et plus claires grâce à l'écoute de la parole de Dieu, qui viennent à nous dans l'Église et dissipent la confusion et l'erreur. Cette Notre-Dame de Lourdes, qui par l'amour maternel qui s'écoule de son cœur immaculé, nous attire à elle, et à son tour, par la pénitence et la prière, elle conduit nos cœurs à leur refuge sûr, qu'est le cœur de Jésus. La conscience est la voix de Dieu dans notre âme humaine. Elle est par conséquent toujours en phase avec le Christ lui-même, qui instruit et informe par son vicaire, le souverain pontife, et par les évêques en communion avec le pontife romain. Le bienheureux cardinal John Henry Newman décrit la conscience comme un messager de celui qui est tant dans la nature que dans la grâce nous parle derrière un voile et nous enseigne les règles par ses représentants. Nous devons être convaincus que la culture de mort qui contredit dès son origine la loi morale naturelle ne peut jamais réussir et que la culture de la vie, une culture qui exprime dans toutes les dimensions de la loi morale l'éthos écrite sont au cœur de tout homme, remportera la victoire. L'apostolat que nous réalisons par conséquent répond à ce que s'y trouve dans le cœur de chaque homme de la manière la plus profonde. Notre certitude de la victoire de la culture de la vie n'est certainement pas là pour nous excuser d'un engagement vigoureux pour hâter le jour de la victoire, pour la mort des vies innocentes et sans défense qui sont victimes de la culture de mort. L'espérance dans la victoire de la vie, au contraire, exige que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour surmonter la culture de mort. N'oubliez pas l'urgence avec laquelle Notre-Dame de Lourdes nous invite par Sainte Bernadette à la pénitence et à la prière pour la conversion des pécheurs. Nous reconnaissons ainsi en effet que nos frères et sœurs, ceux dont les vies sont le plus menacées dans notre culture, sont dépendants de nous pour sauvegarder et promouvoir toute vie humaine. La conscience n'exige rien de moins de chacun de nous. Ici, nous devons être attentifs à une fausse conception de la conscience qui prévaut dans notre culture, qui voit notre apostolat comme une tentative d'enlever la liberté d'autrui, d'imposer notre façon de penser aux autres. Dans son adresse de Noël au Collège des cardinaux, à la Curie romaine et au gouvernorat de la Cité du Vatican, le 22 décembre de l'année dernière, le pape Benoît XVI a stigmatisé la fausse notion répandue de la conscience et son rôle dans les maux graves qui sont commis quotidiennement dans notre culture. En ce qui concerne les maux graves qui assèlent le monde de nos jours, le pape Benoît XVI a déclaré que ce sont tous des signes de la tyrannie de Mammon qui pervertit l'humanité et qu'il résulte d'une fatale incompréhension de la liberté qui compromet effectivement la liberté de l'homme et finalement la détruit. Ils sont des manifestations, il est vrai, d'une façon de vivre pour reprendre les mots de bienheureux pape Jean-Paul II, comme si Dieu n'existait pas. Dans son discours de Noël de 2010, notre Saint-Père commence par décrire la perversion de l'éthique, de la norme morale qui a même pénétré dans la pensée de certaines théologiennes dans l'Église et qui a fourni une base idéologique pour une culture qui est principalement marquée par la violence et la mort. Se référant à une manifestation particulièrement choquante de l'idéologie, il a déclaré « Il a été soutenu, même dans le domaine de la théologie catholique, que rien ne peut être considéré comme un mal en soi ou un bien en soi. Il y a seulement une chose meilleure que et une chose pire que. Rien n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend des circonstances ou de la femme poursuivie. Rien ne peut être bon ou mauvais. Cela dépend des buts et des circonstances. La morale est remplacée par un calcul des conséquences et dans le processus, elle cesse d'exister. » Le pape Benoît VI décrit un relativisme moral appelé proportionnalisme ou conséquentialisme dans la théologie morale contemporaine, qui a provoqué une profonde confusion et une erreur mortelle en ce qui concerne les vérités plus fondamentales de l'ordre moral. Il a conduit à une situation où la morale elle-même, selon les paroles des Saint-Pères, cesse d'exister. Nous pensons, par exemple, à la justification de l'assassinat de l'enfant à naître dans le ventre de sa mère sous prétexte de l'exercice du droit de la mère à choisir sur un pied d'égalité avec des autres biens de mener à terme le bébé qu'elle a conçu ou non. à la justification des pratiques odieuses, de la génération artificielle de la vie humaine et de sa destruction au stade embryonnaire de développement comme le moyen d'obtenir de possibles soins pour les maladies invalidantes ou mortelles. Nous pensons aussi à la justification du soi-disant meurtre par compassion de ceux qui ont droit à nos soins au premier titre. Nos frères et sœurs dont la faiblesse s'est accrue en raison de leur âge avancé, d'une maladie grave ou qui ont des besoins spéciaux, comme le respect de la qualité de leur vie. Nous pensons aussi à la justification de l'union sexuelle de deux personnes du même sexe sous le prétexte de la tolérance vis-à-vis de formes soi-disant alternatives de la sexualité humaine, comme s'il y avait une forme de la sexualité humaine autre que la forme inscrite par Dieu lui-même dans l'âme et le corps humain. En lien étroit avec le relativisme moral, se situe une idée fausse de la conscience qui utilise en fait la conscience pour justifier des actes gravement désordonnés. Dans le discours de Noël que nous venons de citer, le pape Benoît XVI, faisant une réflexion sur la béatification du cardinal Jean-Henri Newman, qu'il a célébré lors de son voyage apostolique en Grande-Bretagne en septembre de l'année dernière, énonce la vérité sur la conscience face à une fausse notion de conscience qui est en vogue dans notre culture. Elle a déclaré, « Dans la pensée moderne, le mot conscience signifie que, pour les questions morales et religieuses, c'est-à-dire subjectives, l'individu constitue l'autorité finale pour la décision. Le monde est divisé entre les royaumes de l'objectif et du subjectif. Au domaine objectif appartiennent les choses qui peuvent être calculées et vérifiées par l'expérience. Religion et morale ne relèvent pas du champ d'application de ces méthodes et sont donc considérées comme entrant dans le domaine du subjectif. Ici, il est dit qu'il n'y a pas une dernière analyse de critères objectifs. L'instance ultime que peut décider ici est donc le sujet seul. Et justement, c'est ce que le mot conscience exprime. Dans ce domaine, l'individu, avec ses intuitions et des expériences, peut décider. La compréhension que Newman a de la conscience est diamétralement opposée à celle-là. Pour lui, la conscience, c'est la capacité de l'homme à la vérité. La capacité de reconnaître précisément dans les zones de prise de décision de sa vie, la religion et la moralité, une vérité, la vérité. Dans le même temps, la conscience, la capacité de l'homme à reconnaître la vérité, est ce qui lui impose l'obligation de se rendre sous la voie de la vérité, de la chercher, et de la lui présenter là où elle se trouve. La conscience est à la fois la capacité de la vérité et l'obéissance à la vérité qui se manifeste à tous ceux qui la cherchent avec un cœur ouvert. La conscience, par conséquent, ne nous établit pas à part comme un arbitre de ce qui est juste ou bon, mais il nous unit dans la poursuite d'une vérité, c'est-à-dire en définitive notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul arbitre de ce qui est droit et bon, de sorte que nos pensées, paroles et actions mettent en pratique cette vérité. pour connaître le rôle essentiel dans la notion de liberté de conscience dans l'exercice de l'apostolat du respect de la vie humaine. Nous devons faire tout ce que nous pouvons, à la maison et dans d'autres établissements d'enseignement, pour former nos consciences, et surtout les consciences de nos enfants et des jeunes qui dépendent de nous, pour les établir, les guider sur le chemin de la vérité, grâce aussi à la discipline. Il va de soi que toute forme véritable d'éducation sera attentive à l'éveil de la conscience de l'élève et à la vérité, et à la rendre plus fort pour agir en accord avec la vérité. Un étudiant, par exemple, qui apprend la vérité que la vie humaine commence au moment de la conception, sera en même temps formé dans le respect inconditionnel de la vie humaine dès son premier moment. Il aura appris à reconnaître la fausseté de ceux qui appellent la vie humaine à ses premiers stades de développement par un autre nom, afin de masquer la vérité qui est qu'il s'agit bien d'une vie humaine. Dans son discours de Noël de 2010, le pape Benoît XVI a exhorté ses auditeurs à étudier à nouveau l'enseignement de son prédécesseur, le bienheureux pape Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor, sur les principes fondamentaux de morale de l'Église enseignante. Dans Veritatis Splendor, le pape Jean-Paul II, selon les paroles du pape Benoît XVI, a indiqué avec une force prophétique, dans la grande tradition rationnelle de l'éthique chrétienne, les fondements essentiels et permanents de l'action morale. Veritatis Splendor est un fruit remarquable de l'herméneutique de la réforme ou la continuité de ce qui relève de la doctrine morale pérenne de l'Église. Nous rappelons la nécessité de former notre conscience en accord avec l'enseignement moral de l'Église. Notre Saint-Père nous a également rappelé notre responsabilité de rendre ces fondements moraux audibles et intelligibles une fois de plus pour les gens d'aujourd'hui, afin de les mener sur le chemin de la véritable humanité dans le cadre de notre préoccupation primordiale pour l'humanité. L'enseignement de la vérité au sujet de la conscience doit être aujourd'hui une des contributions les plus importantes de l'Église à la vie de la société en général. Dans une culture bombardée par les bruits et de fausses images de la sécularisation, l'Église, par amour de tous nos frères et sœurs et pour l'amour du bien commun, doit faire entendre la voix de la conscience, audible et intelligible une fois de plus pour les gens. En Jésus-Christ, Dieu le Fils s'est fait homme. Le ciel est venu sur terre pour dissiper les ténèbres de l'erreur et du péché et combler les âmes de la lumière, de la vérité et de la bonté. Si les chrétiens vivent dans le Christ, dans l'union de leur cœur avec son sacré cœur, ils sont pleins d'espérance. Et quand leurs frères et sœurs, perdus dans le monde irréel et destructeur du relativisme moral, et par sa conséquence tentés par le désespoir, les rencontreront, ils vont découvrir l'espérance dont ils ont besoin. Vivons Jésus-Christ, vivons selon la vérité de la loi morale qu'il enseigne dans son Église. Les chrétiens deviennent la lumière pour dissiper la confusion et les erreurs qui ont conduit aux si nombreux et si graves maux moraux de notre temps, et inspirer une vie vécue en accord avec la vérité et par conséquent marquée par la liberté et le bonheur. Les paroles de notre Saint-Père montrent clairement le dynamisme inhérent à la vie de l'Esprit-Saint dans l'âme, qui conduit le chrétien à témoigner du mystère de l'amour de Dieu dans sa vie, et ainsi à transformer sa propre vie plus pleinement dans le Christ et à transformer le monde. Une notion erronée de la loi morale et de la conscience a conduit à une exclusion de la vie publique, tout aussi erronée, de la discussion de la loi morale et des questions de conscience. Dans de nombreuses nations dites avancées, nous assistons à une tendance croissante à refuser aux citoyens le droit le plus fondamental, le droit d'observer les préceptes de la conscience formés par la droite raison et l'enseignement de l'Église. Nous assistons à ce phénomène dans la bouche de dirigeants politiques qui prétendent être catholiques et votent encore pour une loi qui viole la loi morale, prétendant tenir personnellement à ce que la loi morale exige, mais en même temps étant obligé par le bureau politique de suivre une autre loi, prenant des décisions pour ceux qu'ils représentent et les gouvernements. Même si l'Église enseigne la loi morale naturelle, le respect de la loi morale n'est pas une pratique confessionnelle. Elle est plutôt une réponse à ce qui est inscrit dans les profondeurs du cœur de tout homme. La foi religieuse articule clairement la loi naturelle, permettant aux hommes de foi de reconnaître plus facilement ce que leur propre nature humaine et la nature des choses demandent à chacun d'entre eux, et à conformer leur vie à la vérité qu'ils reconnaissent. Pour cette raison, la foi et les pratiques religieuses sont importantes pour la vie de tous les pays, en particulier pour la formation droite de la conscience des citoyens. Toutes les nations doivent garantir le libre exercice de la religion qui vise à protéger l'enseignement et la pratique de la foi religieuse dans l'intérêt du bien commun. Quand la raison n'est pas purifiée par la foi dans la sphère politique, les puissants et influents exercent une tyrannie qui viole les droits fondamentaux du peuple, celui-là même que les dirigeants politiques sont appelés à servir. Le pape Benoît XVI, lors de sa rencontre avec le monde de la culture à l'hôtel de ville de Westminster, au cours de sa visite pastorale en Grande-Bretagne en septembre 2010, a réfléchi sur le rôle de la croyance religieuse dans le processus politique. S'inspirant de l'exemple de saint Thomas More, il a parlé directement des fondements éthiques du discours civil. Présentant la foi religieuse en tant que service à la culture en général, il expose la compréhension catholique de la question en ces termes. La question centrale en cause alors est la suivante. Où est le fondement éthique des choix politiques à faire? La tradition catholique soutient que les normes objectives qui régissent l'action droite sont accessibles à la raison, abstraction faite des contenus de la révélation. Selon cette interprétation, le rôle de la religion dans le débat politique n'est pas tant de fournir ces normes comme s'il ne pouvait pas être connu par des non-croyants, et encore moins de proposer des solutions politiques concrètes qui se trouvent tout à fait en dehors de la compétence de la religion, mais plutôt pour aider à purifier et éclairer l'application de la raison à la découverte de principes moraux objectifs. Le pape Benoît XVI a noté que le rôle de la religion dans le discours public n'est pas toujours bien accueilli, pour diverses raisons qui incluent également des formes déviantes de la religion telles que le sectarisme et l'intégrisme. Il a fait observer toutefois que ces distorsions ne justifient pas l'exclusion de la religion du discours public, car la raison aussi peut être la proie de distorsions comme quand elle est manipulée par l'idéologie ou appliquée d'une manière partielle qui n'y tienne pas compte de la dignité de la personne humaine. Ce qui reste nécessaire et vrai est la bonne relation entre foi et raison. Le Saint-Père conclut. C'est pourquoi je dirais que le monde de la raison et le monde de la foi, le monde de la rationalité laïque et le monde de la croyance religieuse ont besoin les uns des autres et ne doivent pas avoir peur d'entrer dans un dialogue profond et permanent pour le bien de notre civilisation. La religion, a-t-il poursuivi, n'est pas un problème à résoudre pour les législateurs, mais une contribution essentielle à la conversation nationale. Compte tenu du rôle irremplaçable de la religion dans la vie publique, le Saint-Père a exprimé sa préoccupation face à la marginalisation croissante des religions, en particulier du christianisme, qui se déroule dans certains milieux, même dans les pays qui mettent beaucoup l'accent sur la tolérance. Le pape Benoît XVI a conclu son discours à Westminster Hall avec une invitation à préserver et à favoriser la bonne relation entre foi et raison, qui est essentielle à la poursuite du bien commun, du bien de la société. Dans son discours de Noël 2010, le pape a conclu par une référence à son discours à Westminster Hall avec ces mots d'urgence. Ce consensus moral fondamental provenant de l'héritage chrétien est en danger là où sa place, la place du raisonnement moral, est prise pour la rationalité purement instrumentale dont j'ai parlé plus tôt. En réalité, ceci rend aveugle la raison pour ce qui est essentiel. Pour résister à cette éclipse de la raison et préserver sa capacité à voir l'essentiel, pour voir Dieu et l'homme, pour voir ce qui est bon et ce qui est vrai, c'est l'intérêt commun que tous les hommes de bonne volonté soient unis. C'est l'avenir même du monde qui est en jeu. Il n'y a pas de doute à avoir sur l'urgence avec le pape Benoît XVI nous appelle à commencer un débat public avec les vérités fondamentales de la loi morale telle qu'elle est enseignée par la raison et la foi. Pouvoir réfléchir sur la place nécessaire de l'expression de notre foi dans la vie publique, en particulier dans l'ordre politique, est un autre motif d'espérance pour nous dans l'exercice de l'apostolat du respect de la vie humaine. Oui, une véritable lutte est engagée avec ceux qui, à tort, excluent les capacités de la foi à purifier et à éclairer la raison. Confrontés à ceux qui insistent pour que, quand il s'agit de la vie civique, nous mousselions notre foi religieuse au point de violer nos propres consciences. Mais nous savons la vérité sur les services essentiels que notre foi apporte à un raisonnement politique. Et par conséquent, nous devons rester fermes dans le témoignage et ce même en face de l'indifférence et d'hostilité. J'espère que ces réflexions offertes en l'extraordinaire lieu saint des apparitions de Notre-Dame de Lourdes à Sainte Bernadette seront la cause d'une espérance renouvelée pour l'ensemble d'entre vous, que vous consacrez de diverses manières selon votre vocation et la diversité de vos dons personnels à l'apostolat pour le respect de la vie humaine. Le combat de notre apostolat n'est en aucun cas facile dans une société entièrement sécurisée. Il s'agit clairement d'une lutte à long terme. Mais nous ne devons jamais nous décourager. Nous ne devons jamais nous laisser aller à la lassitude, car nous faisons le travail que Dieu lui-même nous a confié, une œuvre dans laquelle nous sommes très proches de celui qui est la main de l'humanité sans limite et sans exception. Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception, nous enseigne l'amour qui respecte la dignité inviolable de la vie humaine dès le premier moment de son existence et par conséquent nous rassemble in une communauté dédiée à servir le bien commun, le bien de tous, sans limite ou exception. Si nous sommes de temps en temps, comme on peut le comprendre, découragé dans notre apostolat pour établir le respect de la dignité inviolable de la vie humaine innocente dans notre société, il faut nous tourner vers Notre-Dame, mendier son intercession et imiter sa confiance totale en Dieu, sûr que les promesses de salut pour nous seront tenues. Elle nous regarde avec amour maternel, et quand nous abandonnerions décourager notre réponse obéissante à ce que la loi exige morale de nous, il nous parle comme elle a parlé à Sainte Bernadette, nous exhortant à la pénitence et à la prière, surtout à la prière du Saint-Rosaire et à l'adoration eucharistique, en particulier les processions eucharistiques. Confions nos inconstances et nos craintes à la prière de Marie Immaculée et laissons-nous attirer par son exemple à rester fidèle et courageux. La lutte est féroce et l'opposition est puissante, mais la victoire est déjà la nôtre tant que nous demeurons dans le Christ, fidèles à son évangile de la vie, car il nous a dit, « Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la consommation des siècles. » Nous savons que si nous sommes fidèles à notre conscience, obéissons à la voix de Dieu qui nous parle dans les profondeurs de nos cœurs, nous allons accomplir tout ce que Dieu nous demande, comme ses vrais fils et filles, ses fidèles collaborateurs dans le travail du salut du monde. Merci.